cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes, et bon retour à la maison. 17h et quelques minutes en ce lundi 9 mars 2009, Vincent Langlois au micro. Je souhaite la bienvenue à votre magazine hebdomadaire sur le monde ludique, puissance maximale. Comme à l'habitude, je salue mes collaborateurs. On va faire un petit tour de table pour voir ce qui va se passer aujourd'hui dans l'émission. Salut Mathieu Place.
Salut, ça va bien?
Très bien. Mathieu, de ton côté, de quoi vas-tu nous parler?
Je vais parler du bâton de joie, mieux connu sous le nom de joystick.
Excellent. De ton côté, Guillaume.
Finalement, la semaine passée, on n'a pas eu la chance de pouvoir faire la chronique sur Naruto, donc on se reprend cette semaine avec, bien sûr, tout plein de détails sur cet animé japonais très, très populaire.
Excellent, et on ira voir aussi, on ira rejoindre Fraulein Evil, Chantal Campagna, en direct de Montréal, à la mi de l'émission environ. Et nous débutons tout de suite avec l'entrevue de la semaine, figurez-vous donc qu'il y a déjà 10 ans de cela. Musique Plus innovait avec un magazine télé d'information technologique, l'émission Monsieur Net. Demain, le mardi 10 mars, Denis Talbot et son équipe vous convient à un rendez-vous tout spécial à l'occasion de la 1500e émission de la série. Nous avons la chance de parler avec M. Talbot, animateur de l'émission. Monsieur Talbot, bonne fin d'après-midi et bienvenue à Puissance Maximale.
Je suis content d'être là, merci beaucoup.
Excellent. Tout d'abord, nos félicitations à vous et à toute l'équipe pour l'atteinte de cette marque. Je ne sais pas si les auditeurs sont conscients de ça, mais 1500 émissions dans le monde de la télé d'aujourd'hui, wow. C'est quand même beaucoup.
Non, c'est beaucoup. On écoute souvent d'autres stations de télé qui... Il y a des émissions qui sont là depuis quoi, 100-150 shows, et puis c'est le gros party. Nous, c'est le 1500e. Et vous allez voir, ça va être très simple comme célébration. On fait un show comme d'habitude, sauf qu'on va donner quelques prix supplémentaires aux gens qui nous écoutent. C'est comme ça qu'on a décidé de célébrer l'événement en remerciant les gens qui nous suivent depuis toutes ces années. C'est quand même grâce à eux, si on est encore là.
Oui, j'ai noté justement que vous aviez organisé un méga concours auquel Sony, Microsoft et Nintendo ont participé. Est-ce qu'il est encore temps pour les gens d'y participer ou ça sera fait en onde demain?
Ça va être demain en onde et vous allez voir, il y a une question à réponse qui est très très simple. Je donne un indice, ça rapporte au début de Monsieur Net.
Ah, d'accord,
oui. Il y a une question, c'est facile à, vous allez voir, la réponse est assez facile à trouver. Et ce sera les grands manufacturiers qui nous suivent depuis nous tout début ont décidé de se joindre à nous justement pour remercier le public et donner ces quelques prix qui sont quand même alléchants.
Dites-moi, Denis Talbot, avant de passer le cap du 1500 émissions, il faut franchir celui du 100e, du 200e, le 500e, même le 1000e, dont il y a eu sûrement certaines célébrations par le passé. C'est déjà quelque chose d'exceptionnel, la 1000e émission. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pensiez en faire 500 autres de plus?
Écoutez, franchement, nous, on le fait avec passion et si on n'avait pas atteint les caps du 1500 ou du 1000e, on l'aurait fait probablement ailleurs. On est tous des passionnés, on est des gens qui en mangent des jeux vidéo, on est là le matin tôt, on part tard le soir, on joue les fins de semaine, on joue la semaine. La plupart des gens, on se retrouve même en ligne pour jouer à des jeux en gang. Alors, c'est une passion, c'est ma vie, cela.
Écoutez, en parlant de cela, il y a 10 ans, on parlait de Monsieur Net comme c'était un magazine hebdomadaire de 30 minutes. Si je me souviens bien, c'était peut-être le jeudi, il me semble, que ça jouait, en tout cas. À ce niveau-là, quels sont les changements que vous avez apportés au cours des années pour que ce concept-là devienne le concept le plus populaire au Québec?
Ben, écoutez, on essaie de s'adapter justement au marché, on essaie de répondre à la demande. Et si on écoutait les gens, il y avait une station de jeu 24 heures sur 24 à Montréal ou au Québec, parce qu'au Québec, on est des gros gamers. Moi, je suis pas mal sûr qu'une station comme celle-là pourrait vivre sans aucun problème, parce que, comme je vous disais, on aime jouer au Québec. Les gens sont des passionnés, c'est des gens qui aiment s'amuser, c'est des gens qui aiment justement découvrir des nouveaux titres, des nouvelles licences, tout ça. Mais il faut s'adapter, il faut écouter la demande, il faut essayer de se renouveler, essayer de raffiner ses critiques. Quand on fait une critique, c'est important que les gens comprennent que c'est l'opinion d'une personne. Si je fais une critique et moi je dis que j'aime le jeu, ça se peut que vous, de l'autre côté, vous n'aimez pas le jeu, et c'est votre droit, et c'est normal. C'est comme ça c'est une opinion, c'est un, comme même chose lorsqu'on lit des critiques de jeux ou de films ou des critiques de vin. Quelqu'un va goûter un vin, va dire, c'est excellent, toi tu vas goûter, tu vas dire, non, moi je suis pas sûr. C'est correct comme ça.
Vous parliez de se renouveler, en fin de compte, c'est de façon quotidienne. Quels sont les défis qui sont reliés à la production d'une telle émission? Quotidiennement, c'est quand même quelque chose?
Oui, c'est qu'on est quatre seulement. En fait, on est cinq au total. Il y a notre monteuse qui s'appelle Mélanie qui fait un travail de DS et elle travaille très, très bien. C'est une fille qui est une gameuse aussi. Donc, lorsqu'on lui donne des projets à réaliser, on n'a pas besoin de la suivre à la piste. C'est la même chose avec les autres membres de l'équipe. Ce n'est pas des comédiens qui jouent aux spécialistes de jeux vidéo, c'est des gens qui en mangent, c'est des gens qui découvrent des trucs. Tous les jours, on arrive le matin et notre meeting de production, nous, c'est toute la journée. Quelqu'un qui arrive, ça vient de sortir, regarde ça, regarde tel truc, regarde telle affaire, ou il y a un nouveau paquet qui vient d'entrer, on vient de recevoir un nouveau bêta. Ou même moi, parce que j'ai peu de gens qui le savent, mais j'ai une petite compagnie qui fait des tests, des bêta-tests de jeux qui vont paraître en quoi soit en 2009, 2010, même en 2010-12 dans ce coin-là. Alors, j'ai la chance d'avoir justement des contacts dans l'intérieur des grandes compagnies qui vont me donner des jeux à tester. Bien sûr, je peux pas tous les montrer parce que on est souvent ce qu'on appelle un NDA, un Non-Disclosure Agreement, des contrats de confidentialité. Mais quand même, ça me donne une bonne perspective de ce qui s'en vient dans l'avenir du jeu vidéo. On est en train de travailler d'ailleurs sur un making-of d'un gros titre qui va paraître en 2010. Alors ça, j'ai bien hâte que vous voyez ça. Ça va être disponible sur le jeu en question dans l'édition limitée. Alors on travaille fort, on s'amuse, on en mange du jeu.
Et donc, une bonne journée, là. C'est une journée complète de travail parce que quand vous êtes à 19h30 à la télévision, c'est en direct ce que vous faites.
Oui, mais là, depuis peu, on a, à cause de contraintes de production ici, il y a deux de nos émissions qui sont en reprise, en fait, qui sont enregistrées le matin pour le soir, où souvent, ça dépend des contraintes de production, mais ça, on va revenir à 4 jours à temps en direct.
D'accord.
À partir de septembre.
Oui, vous avez toujours affirmé que bon, l'informatique et les jeux vidéo sont votre passion. Ça devait être le cas à l'époque où Musique Plus a commencé, vous étiez VJ. En fin de compte, est-ce que à ce moment-là, vous pensiez déjà créer ou produire une émission là qui s'adresserait à ce type de à ce monde-là, le monde technologique?
Moi, je faisais une émission qui s'appelait Les Aventures du Grand Talbot, et dans cette émission, on avait déjà commencé à faire des critiques de jeux vidéo. Je me souviens, on avait parlé de jeux de course qui s'appelait Grand Prix. Je sais pas si ça vous dit quelque
chose. Oui.
La série Grand Prix, c'était bien fun, mais à l'époque, je pense que c'est Grand Prix 2 qui venait de sortir. On avait fait on avait commencé à faire des critiques de jeux vidéo, et vu que moi, je pilote des avions, ben, après ça, on a fait des critiques de simulateurs de vol, etc., etc. On avait passé à travers la panoplie des simulateurs de vol de la compagnie James, qui maintenant n'en fait plus, malheureusement. C'est une excellente compagnie de jeux vidéo. En fait, des simulateurs de vol. Et l'idée de faire une émission comme M. Net me trottait dans la tête depuis longtemps, sauf que, va voir ton patron et dis-lui, hey, je vais faire une demi-heure par soir de show vidéo en direct. Il connaît pas ça. Tu sais, dans le temps, les jeux vidéo étaient pas aussi répandus. Lorsqu'on voulait voir un jeu vidéo, il fallait aller jouer dans un arcade. Et tu sais, cracher son argent à coup de 25 cents, 50 cents. De faire une émission de télé avec ça, c'était pas encore ancré dans les mœurs et dans la culture des télévisuels québécoises. Mais tranquillement, en force de persistance, on a réussi à le convaincre. Et M. Net est là depuis 10 ans.
Vous avez quand même un site Internet qui est très interactif, très intéressant à aller voir. Est-ce que l'expansion d'Internet et le nombre... l'augmentation du nombre d'internautes de façon exponentielle vous a fait penser un jour peut-être d'aller complètement vers ce médium-là, le médium Internet, et de laisser tomber la télévision?
Moi, je pense qu'effectivement, c'est ce qui est en train de se produire tranquillement, pas vite. Moi, j'ai déjà ma station de radio. On a commencé avec une centaine d'auditeurs et notre pic a été de 22 000 personnes sur Internet, ce qui est énorme. J'ai une station complète chez moi, micro, compresseur et tout le tralala. Si demain vous m'appeliez par un direct de chez nous, on a juste à se brancher puis on aurait l'impression que je suis à côté de vous. Je suis vraiment équipé pour faire ça. Alors effectivement, je me dirige tranquillement vers ça, vers l'Internet. Et il y aura peut-être des projets bientôt, on vous en reparlera.
D'accord. Et en terminant, M. Talbot, un petit coup de cœur sur console ou jeux vidéo, ancienne ou nouvelle génération, quels sont vos coups de cœur?
Moi, je trouve l'idée de Left 4 Dead ces temps-ci brillante. Je trouve ça intéressant que le jeu s'ajuste justement au gamer au fur et à mesure de sa progression. J'adore ça. Pour ça, dans les coups de cœur, j'ai eu un gros coup de cœur pour Call of Duty 4. Je trouvais ça intéressant, surtout en mode solo, de jouer les quatre factions. Les trois factions, en fait, passer d'une faction à l'autre et tout ça dans un scénario très interactif sur le seul fun. Et je viens d'aller voir tantôt, on a été invité chez Electronic Arts voir le prochain Army of Two. C'est un titre qui va être beaucoup mieux que le premier et qui semble très intéressant. J'ai bien hâte de le voir.
Moi, en fin de compte, Army of Two, je suis d'accord avec les choix que vous faites. Army of Two, je l'ai joué. J'ai même rencontré un des producteurs chez EA. Et moi, c'était quand même un jeu que j'avais aimé, parce que, ben, surtout bien sûr pour le jeu en ligne. Et c'est un jeu que je joue encore présentement, en tout cas.
Oui. Mais là, tous les murs invisibles, tout ça, ça va être disparu. Il n'y aura plus de ça. Les espèces de champs de force là, qui nous empêchent de faire qu'il faut. Ça va être disparu. Et moi, je déplorais un peu le fait qu'il n'y ait pas de pénétration dans les matières. Quand quelqu'un qui a caché une planche de bois, on ne t'apprête pas de le tirer. Maintenant, ça va être possible. Alors, ça promet énormément. Il y a des titres intéressants. De vous en dire quelques-uns brûle pour point comme ça, je vous dire que de temps en temps, je ressors mon télévision, puis je m'amuse à mettre les cassettes. C'est des cassettes, en fait. Oui. On va aller mettre des cassettes dedans et je m'amuse à faire le tour juste pour payer un peu de... Un petit voyage du côté de la nostalgie.
Bien, je vous remercie beaucoup, M. Talbot, pour votre temps. Et félicitations encore une fois à toute l'équipe pour les 1500 émissions. On vous en souhaite une autre série de 1500.
C'est bien gentil. Et longue vie à votre show également. Merci beaucoup.
Merci. Bonne fin de journée. C'était Denis Talbot, animateur de l'émission Monsieur Net. Et en passant, demain, comme je disais tout à l'heure, Monsieur Net, diffusé à 19h30, aura une émission spéciale pour la 1500e émission de cette série. Vous pouvez également visiter le site Internet de Monsieur Net au www.musicplus.com/mnet, M-N-E-T. Alors, Guillaume, nous allons aller en musique.
Oui, effectivement, comme à tous les semaines, on commence avec une pièce de Musax qui va lui-même introduire comme à l'habitude.
Resident Evil 3 Nemesis met en scène à nouveau les membres des Stars, une unité d'élite. Ils devront nettoyer Raccoon City de ses zombies et combattre Nemesis, une terrible créature créée par la société de biochimie Umbrella.
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
toujours heureux de voir que notre ami Frodon vient nous visiter toutes les semaines. Et on va passer à la chronique de Guillaume Forain. Guillaume, tu me parles de Naruto aujourd'hui. Moi, Naruto, je vais vous dire franchement, chers auditeurs et messieurs ici en studio, c'est une série dont j'entends parler quand même assez souvent, étant enseignant et ayant des élèves qui m'en parlent, mais je n'ai aucune idée de ce
que c'est. Moi non plus, je vais apprendre ça là aujourd'hui.
Allez Guillaume, on t'écoute.
C'est très simple. Bon, premièrement, ça vient de base d'un manga, donc d'un dessin sur papier au Japon, qui a eu tellement un gros succès qu'il a été transféré par après en bande dessinée à la télévision. Il y a eu plusieurs jeux aussi qui ont été créés sur la série Naruto. C'est quand même quelque chose qui est assez vieux. La première parution manga, dans le fond, le premier dessin sur papier qui est sorti de Naruto sort de 1999. Donc, c'est pas quelque chose qui est récent. Par contre, en Amérique du Nord, c'est quelque chose qui est un petit peu plus récent à ce moment-là. Je vous dirais qu'il a commencé à sortir plus dans le coin des années 2004 qu'il a commencé à sortir à ce moment-là. Par contre, ça a pris un petit peu de temps avant que ça soit devenu populaire et qu'ensuite on ait une version faite en français.
Est-ce que c'est pas quelque chose de général au niveau des mangas, justement, que ça allait plus sorti dans les années 2000? Il me semble que à l'époque où tu dis que ça a sorti en 99, tu dis?
99.
En tout cas, peut-être que j'étais à côté de la traque, moi, dans un sens, puis qu'il y avait pas... j'étais pas intéressé par ça.
Les mangas...
Oui, la popularité des mangas, tout ça,
me semble.
Oui, chez les francophones, chez les Québécois, c'est pas quelque chose, justement, qui est arrivé de par les années 2000?
Ben, moi, j'ai vu ça arriver dans les librairies aussi, là, personnellement. Les bandes dessinées ont eu leur section qui est apparue depuis une dizaine d'années. J'ai l'impression que les éditeurs se sont ouverts à ça, ils ont trouvé un public pour ça aussi, parce que c'était pas évident au départ là, dans la forme bande dessinée. Déjà il faut le lire à l'envers, c'est d'autres références culturelles, etc. Mais bon, ça a accroché les gens, puis j'imagine qu'il y avait des exemples comme Dragon Ball, Pokémon, etc. qui ont fait exploser la chose aussi là.
Certainement.
Effectivement, donc les mangas, faut se dire que en Amérique du Nord, c'est pas quelque chose qui est, on pourrait dire mainstream, donc pas quelque chose qui est très populaire, qui est peut-être populaire depuis avant les années 2000. Ça existait, mais c'était un petit peu plus reculé à ce moment-là.
C'est ça, t'avais Astro, t'avais Candy, des petits exemples comme ça.
C'est ça, il y avait quelques vieux comme ça, justement. Il y avait un autre que je le nom, Akira aussi, qui était un classique, qui était un petit peu plus populaire, mais encore là, c'était pas tout le monde qui connaissait. Enfin, on avait une copie dans le club vidéo quelque part, mais c'était pas connu, on ne se faisait pas suggérer à ce moment-là. Donc, Naruto, c'est quoi exactement? Première des choses qu'il faut mentionner, c'est énorme comme série. La série, à ce moment-là, première des choses, la série télévisée, la première série, c'est 9 saisons à 220 épisodes.
9 saisons fois 220 épisodes?
Non, c'est 220 épisodes au total.
Au total.
9 saisons.
Ça fait beaucoup d'épisodes, ça fait...
4 par jour.
C'est 27 volumes sur papier de manga. Ça, c'est pour la première série. Ensuite, il y a eu une deuxième série qui était Naruto Shippuden, qui, dans le fond, qui est Naruto un petit peu plus vieux. Jusqu'à date, cette série-là continue. En manga, donc, en animé sur télévision, il y a 4 saisons de un total de 88 épisodes. Actuellement, qui sont sortis depuis le 15 février 2007. Et la version volume, donc papier, il y a 17 volumes de sortie. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez gros. Quelqu'un qui veut lire ça ou d'un bout à l'autre, c'est énorme, c'est beaucoup. Les écouter, c'est encore plus long à ce moment-là, parce qu'il faut dire, chaque épisode, c'est un épisode, si on enlève les annonces, à peu près une vingtaine de minutes. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'heures d'écoute qu'on a devant nous à ce moment-là, si on veut faire la série au complet.
As-tu essayé?
J'ai commencé. J'ai lu tous les mangas sur papier. Dans le fond, malheureusement, j'ai pas eu la chance de les acheter. Un jour, je vais les acheter quand il va y avoir des beaux coffrets de sortie dans le fond, là, où est-ce qu'on va pouvoir acheter tous les livres. J'ai commencé à écouter les épisodes. Les épisodes, c'est long à écouter, malheureusement. J'ai pas toujours le temps, mais je suis tranquillement, pas vite, en train de les écouter. Bon, Naruto, c'est quoi exactement? L'histoire, c'est un jeune homme qui s'appelle Naruto. Uzumaki, personnellement, les noms en japonais, j'ai beaucoup de la misère à les prononcer, donc j'irai pas trop dans les noms de famille.
D'après ma connaissance, je pense que t'étais quand même assez près de la prononciation.
Ça sonnait japonais, oui.
Oui, c'est tout à fait réussi, on te félicite.
Je vais devenir un vrai japonais bientôt. Donc Naruto, c'est quoi? C'est un jeune homme qu'on peut dire d'à peu près, si je me souviens bien, d'à peu près 14 ans. Que lui, son rêve, c'est de devenir, qu'est-ce qu'on appelle en français, le Hokage. Donc, le ninja le plus fort du village qui protège le village. La raison pourquoi il veut devenir ça, c'est que c'est un jeune qui n'a jamais eu de respect. donc qui se faisait tout, qui avait de la misère à l'école, qui se faisait rejeter un peu à ce moment-là. Bien sûr, il s'en va à l'école des ninjas, donc il se fait ridiculiser parce qu'il a moins de talent un peu que les autres. Mmh. Et c'est sa façon à lui de se faire reconnaître. C'est son but, c'est de devenir le meilleur ninja. Bon, on prend ça juste de même. Ça a l'air quand même assez simple. Ça a l'air presque enfantin à ce moment-là. Par contre, qu'est-ce qui fait en sorte que il est un peu rejeté de son village, c'est que dans le fond, 12 ans avant que la série commence, il y a eu qu'est-ce qu'on appelle un démon, donc un démon à 9 queues, qui a attaqué le village et que l'Hokage de cette époque a enfermé dans Naruto qui était naissant. Donc, il venait juste de naître. Donc, pourquoi qu'il est autant rejeté de les gens, surtout les gens un petit peu plus vieux, mm-hmm. c'est qu'ils se souviennent que, d'une certaine façon, c'est sa faute si le village a eu autant de pertes à l'époque, parce que le démon est enfermé en lui. Et ils n'ont pas le droit d'en parler. Donc, il est un petit peu mis de côté et rejeté. Et les épisodes, en fond, c'est son développement, comment il commence à développer son talent, comment il fait des amis. Faut voir ça comme, une histoire de quelqu'un qui s'épanouit, qui grandit, qui apprend, et que les gens commencent à respecter, puisqu'il y a une volonté de vouloir devenir le meilleur, de vouloir prouver aux autres que c'est pas un n'importe qui, c'est quelqu'un qui a du talent, c'est quelqu'un comme tout le monde, qui a des rêves, qui a des émotions, et même s'il ne montre pas toujours, il veut, dans le fond, que tout le monde le respecte pour qu'est-ce qu'il est en ce moment et non pour qu'est-ce qu'il a déjà été.
Donc, c'est la vie côté bon de Anakin Skywalker.
Oui.
Donc, on le découvre tout petit et lui aussi a un certain talent, mais lui, il tourne vers le mal. Donc, c'est à peu près le même chemin qu'on suit pour.
On peut voir ça. C'est ça, il y a un dragon à l'intérieur, là, ça doit lui donner du pouvoir en fou.
Le démon,
il doit pas le contrôler brin-brin au début. Puis,
Effectivement, au début, il le contrôle pas. Même des fois, le démon prend le dessus et les gens doivent le renfermer temporairement le démon à ce moment-là. Qu'est-ce qui est bien aussi de la série? Du moins, moi, personnellement, qu'est-ce que j'apprécie bien, même si c'est pas nécessairement quelque chose qui est très violent comme épisode. Donc, on n'aura pas de scènes sanglantes. Oui, il y a des combats, il y a de la violence, mais c'est pas de la violence graphique gratuite à ce moment-là. Mm. Il y a toujours une raison en arrière et il y a toujours une leçon à tirer. Un petit peu comme même dans le temps, on pourrait référer à les vieux comics comme les G.I. Joe ou les Men. Il y avait toujours
une leçon.
La petite morale de la fin.
Demi-heure, puis après ça, il y avait une petite morale. C'est ça. Après ça, ils riaient.
C'est juste que dans ce cas-ci, ils disent pas à la fin, voici la morale de l'épisode. Et après, dans le fond, les premières 9 saisons, il y a un laps de temps de 3 ans qui passe. Où est-ce que les personnages principaux ils s'en vont faire de l'entraînement, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement en détail, et ils reviennent après 3 ans pour suivre la suite de l'histoire, que je ne rentrerai pas dans les détails, parce que c'est une histoire qui est agréable à découvrir. Mm-hmm. Au début, on pense que l'histoire, quand on l'écoute au début, on trouve ça banal, mais c'est comme n'importe quoi, plus t'en lis, plus tu commences à rentrer dedans, plus que ça devient intéressant, plus qu'on veut suivre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. C'est un petit peu comme les Harry Potter. Harry Potter, quand on lit le premier livre, c'est bien. Quand on lit le deuxième, on commence à rentrer de plus en plus dans l'univers. On découvre les personnes, des informations sur leur passé, mais on devient de plus en plus accroché aux personnages. C'est un petit peu le même principe à ce moment-là. Donc, c'est dans le fond, une série qui, même si c'est l'équivalent de 13 saisons actuellement qui sont sorties, qui vaut la peine de prendre le temps d'écouter. Bien sûr, il n'y a pas juste du bien à la série. Le gros problème qu'il y a avec la série, surtout la série version télévision, il y a certaines séquences de combat qui sont longs. Ils prennent 2-3 épisodes à résoudre à ce moment-là, la scène
de
combat.
C'est un problème récurrent dans les mangas. Hein? Beaucoup de combats. Ben, y en a que ça intéresse, puis il y a toutes sortes de détails intéressants là-dedans, mais des fois, ça peut se prendre beaucoup de temps.
Effectivement, mais un combat qui dure un épisode, c'est bien. Par contre, sur 3 épisodes, quand on commence le deuxième épisode et qu'ils font, on va revenir pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la première 15 minutes de l'autre épisode d'avant de combat. Donc, ça fait que notre épisode de 20 minutes, on a juste 10 minutes de nouveau matériel. On a 10 minutes de qu'est-ce qui s'est passé avant. C'est le gros défaut que je trouve à la série. Par contre, même avec ce défaut-là, ça vaut la peine de s'investir dedans. Il y a tout plein de personnages intéressants. Tout le monde a dans le fond, leur force, leur faiblesse. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres au début, mais qui découvrent qu'avec la persévérance, qu'avec le travail, on peut accomplir quelque chose, un peu comme dans la vraie vie. C'est sûr, certain que dans la vraie vie, c'est pas nécessairement toujours aussi facile. On réussit pas toujours d'accomplir qu'est-ce qu'on veut. Mais le moral, en gros, de la série, c'est faut pas lâcher, faut continuer. Puis si on travaille dur, puis on croit qu'on peut le faire, mais on va réussir à ce moment-là.
Tout ça en 220 quelques épisodes.
Pour la première série.
Pour la première série. Bien, merci beaucoup, Guillaume Foran, pour cette approche à Naruto. On aura peut-être la chance d'en discuter lors d'une prochaine chronique, de continuer un peu cette aventure vers le monde de Naruto. Et on va poursuivre en musique.
Oui, donc la musique, la prochaine pièce, ça vient d'un animé japonais qui n'est pas Naruto. Malheureusement, j'ai pas réussi à mettre une main dessus sur des bonnes pièces de musique encore. Par contre, ça vient d'un animé qui s'appelle Escaflowne, qui est un autre animé japonais qui dure encore là avec plusieurs épisodes, et on va partir en musique.
Jaune-Jaune aussi écoute Puissance Maximale.
Toujours cet agressant Jaune-Jaune, mais en tout cas. Et oui, c'est difficile pour les oreilles, mais c'est notre ami Jaune-Jaune et on l'invite à participer à l'émission. Et nous allons de ce pas rejoindre Fraulein Evil en direct de Montréal.
Bonjour!
Hey, bonjour Chantal, ça va très bien dans cette partie du Québec?
Ah oui, aujourd'hui, la température est excellente pour jouer!
Excellent, super! Alors aujourd'hui, trois petites choses. On parle de Miss Poutine, on parle de Age of Conan et...
Et on parle des nouveautés sur le marché francophone qui sont arrivées fraîches du bateau aujourd'hui.
Excellent. Alors on t'écoute.
Pour commencer, alors le lancement officiel de Miss Poutine a été fixé au 20 mars au très prestigieux restaurant Mame Bolduc sur la rue de Lorimy à Montréal. La cérémonie se passera entre 17h et 20h en compagnie de l'éditeur Christian Lemay, du Scorpion Masqué et de l'auteur Olivier Lamontagne. Donc, c'est un rendez-vous et une invitation pour le lancement officiel de Miss Poutine.
Tu me rappelles la date, Chantal, la date encore une fois?
Le 20 mars. Et le 20 mars. Vendredi le 20 mars, la veille du printemps.
Eh oui.
Et maintenant, deuxième fabuleuse nouvelle de la journée. Demain, l'arrivée officielle de Age of Conan, dont on entend parler depuis déjà plusieurs mois, dont on a vu des previews de la part de Fantasy Flight sur leur site Internet. Alors, demain, l'arrivée officielle de ce fabuleux jeu, c'est une grosse boîte du même format que World of Warcraft et Descent, un jeu avec 90 milliards de pitounes dedans, mais un seul Conan. Donc, c'est un 2 à 4 joueurs, une durée de partie d'environ 90 minutes, où c'est enfin ce qu'on se fait dire. Moi, je pense que ça va être probablement un petit peu plus long, donc demain.
Oh! Est-ce que tu as eu la chance de mettre la main dessus et d'y jouer en avance?
J'avais déjà eu l'occasion de l'essayer brièvement à la Gen Con l'année passée, ainsi qu'à la Gamma de Las Vegas de l'année passée. Mais une version complète, non. C'est sûr et certain que je vais coucher ici à la boutique pour l'avoir le plus près de moi possible, le plus tôt demain matin.
D'accord. Donc, avis aux intéressés, vous devez faire la file après Chantal.
Et finalement, en nouveauté pour ce mois-ci sur le marché francophone, on a des belles nouveautés de la part de notre éditeur fétiche Edge Ubik qui se spécialise dans la traduction en fait des jeux de Fantasy Flight, mais aussi de bien d'autres développements de jeux originaux. Donc cette semaine, on reçoit Le Roi en Jaune, une extension pour horreur à Arkham. Alors, avis aux intéressés, c'est un jeu qui vous fera friser la folie. Donc, c'est essentiellement toujours dans l'univers de Cthulhu, on retrouve la sinistre pièce de théâtre Le Roi en Jaune qui passe à l'asile de Arkham et qui risque encore une fois de faire virer à la folie nos investigateurs courageux.
Eh bien, et quoi de plus?
Dans un deuxième temps, une autre extension, Star Munchkin, la guerre des clowns. Je ne suis pas tellement en mesure de vous en dire plus, si ce n'est que, oui, vous avez deviné, Star Munchkin vous fera vivre la saga épique de la guerre des clowns, mais avec de meilleurs acteurs. Donc, c'est pas tellement difficile. Entre vous et moi. Une autre belle arrivée, on parle de Pingouin Deluxe. C'est une reprise de Hey, That's My Fish de Phalanx, que Ubik avait fait en français, mais c'est une nouvelle version de luxe avec des figurines de pingouins en trois dimensions. C'est un jeu de toute beauté, pour la beauté du matériel, pour le plaisir de taponner les figurines. Il est absolument superbe. Et finalement, pour les amateurs de jeux de mots et de méchanceté, une réédition du fameux jeu Jarnac vient d'arriver sur les étals au Québec. Alors, attention, ça va barder.
Excellent. Donc, ça fait le tour. Merci beaucoup, Chantal.
Et ça me fait plaisir.
On se reparle dans quelques semaines.
D'accord. Bye-bye.
Au revoir. C'était Chantal Campagna en direct de la boutique Le Valet de Cœur à Montréal. Et on va poursuivre en musique avec Guillaume.
Oui, donc on va y aller avec une pièce qui va faire suite à notre spécial de puissance maximale Superman. Donc on va y aller avec, dans le fond, la chanson thème de Smallville, qui a quand même des très bonnes paroles et quelques bons accords.
Oui, qui est une très bonne émission également.
Effectivement. We'll be right back.
bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximal.
Au.
Place à la chronique de Mathieu Place.
Et voilà, après être tombé bonjour, quelques fois, voilà Mathieu Place qui arrive finalement derrière le micro. Mathieu, c'est l'heure de la chronique rétro.
Yes, la chronique rétro. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un instrument fort populaire dans le domaine des jeux vidéo. C'est même devenu un grand symbole des jeux vidéo, comme Pac-Man est devenu un symbole, Mario est devenu un symbole. Eh bien, j'ai bien sûr l'intention de vous parler du bâton de joie, alors le joystick. Alors, je suis sûr que tout le monde a fait la référence. Là, la traduction est assez étrange du joystick. Alors, je vais vous faire
de quoi parles-tu? Je n'ai aucune idée.
Bon. On va en faire une petite description là, sommaire là, pour ceux qui ont passé cette époque-là dans les jeux vidéo ou bien qu'ils ont...
Mais j'imagine que tout le monde a vu ça, peu importe l'âge qu'on a aujourd'hui.
Ben, c'est ça, exactement. Si vous avez vu Top Gun, si vous avez vu des films avec des instruments militaires, ben, il y a bien des chances que vous ayez vu le joystick. Alors, de quoi s'agit-il? En principe, c'est une barre quand même assez lourde, assez solide, qu'on pose sur une table ou sur ses genoux. Et sur cette base-là, eh bien, il y a un bâton avec un bouton au bout. Et puis, vous pouvez agiter le bâton et appuyer sur le bouton au bout pour pouvoir passer les niveaux de votre jeu vidéo. Alors, je me force, là, OK, pour pas que ça ait l'air...
Non, la description était quand même très, très bonne.
Ouais, je suis même pas fait exprès pour que ce soit suggestif. Là, je vous jure, c'est parce que l'instrument est tellement...
En tout cas, qu'il n'y a aucun accident de voiture présent. Qui est dû au fait que tu viens de nous décrire le joystick. Il n'y a pas de problème.
C'est ça. Non, je pense qu'on est correct. Alors, d'où ça vient le joystick? Au début, ça a apparu au début du 20e siècle et les premières utilisations, c'était dans les ascenseurs et dans les instruments militaires. Bon, par exemple, les avions. Alors, c'est dans les avions qu'on a vu la propagation des joysticks. On en a vu le plus arriver. Évidemment, c'était un outil qui fonctionnait bien avec l'avion parce que, bon, l'avion, ça va dans les trois dimensions. Ça monte, ça descend, ça va à gauche, ça va à droite. Alors, c'était tout naturel d'avoir un instrument qui pouvait actionner toutes ces directions-là en même temps, au lieu d'avoir deux pédales, deux petites manettes là, pour pouvoir se diriger. Un joystick, ça fait tous les mouvements qu'on a besoin de faire dans un avion. Alors, c'était vraiment le meilleur instrument possible. Mais il y a beaucoup de personnes qui essaient d'avoir la paternité du joystick. Alors, par exemple, bon, vous avez le français Robert Hainaut Peltry, et puis vous avez aussi un monsieur qui s'appelait Monsieur A. E. George. Et la théorie voudrait que ce monsieur-là ait donné lui-même son nom au joystick. Alors, ça aurait été le George Stick, et ensuite de ça, le nom se serait transformé d'une manière inconnue en joystick.
Téléphone arabe ou quoi que ce soit, à force de le répéter. Ouais,
moi, j'ai l'impression que j'imagine le scénario, là, imaginez le George Stick, t'as toute une gang de pilotes qui ont ça entre les jambes, qui jouent avec, qui font des blagues entre amis le soir avec une bière. L'idée de joystick a dû sortir dès la deuxième soirée de beuverie, là, c'est trop évident. Alors, évidemment, c'est devenu le joystick qui est devenu un des grands symboles du jeu vidéo par la suite. C'est Monsieur Ralph Baer qui est l'inventeur du Odyssey, la console Odyssey de ManiaVox, la première console qui a été inventée pour être utilisée avec une télévision. Alors, c'est ce monsieur-là qui a inventé le joystick en 1967. Alors, ça fait quand même un bout de temps que ça a été inventé. Par la suite, bon, ça a été utilisé dans les arcades, on l'a vu dans les premières générations de consoles, etc. Mais par la suite, bon, ben, vous avez eu la deuxième génération de consoles, en fait la troisième, mais c'était les Nintendo, Sega Master System dans les années 80. Eux, ils utilisaient ce qu'on appelle le gamepad, le petit contrôleur avec une croix et puis deux boutons. Oui. Bon, ça, c'est ce qui a été utilisé par la suite. Et puis après, le joystick est revenu par la suite... Dans une autre forme, c'est le bâton analogue, le analog stick, que vous retrouvez encore sur vos
manettes de PlayStation.
Manettes, c'est ça, exactement.
Xbox. Mais,
c'est sûr que maintenant, au début, moi, j'étais habitué d'avoir le gamepad là, des années 80, puis quand il a fallu que j'apprenne avec le analog stick, j'avais un peu de misère, mais c'est sûr qu'avec tous les environnements trois dimensions qu'on a maintenant, on va dans tous les sens, etc., c'est pas mal plus...
C'est utile, puis c'est certain. Je pense que c'est arrivé avec le Nintendo 64 à l'époque. qui avait fait ça en fin de compte sur la manette. Et même moi, j'ai été très longtemps utilisateur de la croix, même s'il y avait un bâton analogue dessus. Hein, mais à un moment donné, c'est certain, là, ça devient, comme tu disais, intuitif de l'utiliser. Mais je pense même que Nintendo avait fait, en plus de son pad, là, de son contrôleur, avait sorti quand même une manette avec un joystick et deux boutons.
Dans les années 80, je me souviens plus du nom exact, là, mais c'était une grosse manette avec deux gros boutons, puis vous aviez tous les turbos aussi en plus. Là, oui. C'était la méga manette de luxe. Elle coûtait $80 à l'époque, là, si vous pouvez le croire, avec la monnaie de l'époque. Alors c'était quand même tout un morceau. Mais c'est sûr que le joystick est resté dans les paramètres extérieurs, dans les accessoires que tu pouvais acheter en plus de la console de base. Alors c'est l'histoire du joystick. Moi, je m'attendais à une histoire pleine de péripéties, pleine de rebondissements et d'anecdotes. Malheureusement, l'histoire de joystick est assez rectiligne, si je peux m'exprimer ainsi. Ça a été inventé par les aviateurs. Le nom a été transformé par une joke d'aviateur un soir de brosse. Et puis, ça, c'est ma théorie.
Ça s'est
introduit dans les jeux vidéo.
Et voilà, c'était l'histoire du joystick à la façon Mathieu Place. Mathieu, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Et nous allons passer en musique.
Oui, donc tant qu'à avoir un thème animé, on va y aller avec une chanson d'un vieux dessin animé, The Last Unicorn, et avec la chanson qui s'appelle Man's Road.
Tout ça sur CKIA.
Walking man's road. Bonjour, je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale.
La marche impériale, c'est maintenant le temps des actualités. Hein. Ce 9 mars, en fin de compte, c'est les actualités de la semaine dernière au niveau du jeu vidéo, surtout. Eh bien, un petit mot sur les sorties de la semaine, seulement pour vous mentionner que là, on est au mois de mars, et bien sûr, c'est le premier quart de l'année en termes de jeux vidéo qui se termine au mois de mars. Et cette semaine, on a des sorties quand même assez intéressantes, des jeux qui étaient attendus. Au niveau de la Wii, on a le jeu Mad World qui sera en vente dès demain.
C'est quoi exactement?
Le jeu Mad World, ben, c'est un jeu qui est un peu controversé, c'est un jeu où il y a un peu de sang, et ça pourrait ressembler en quelque sorte au Grand Theft Auto de la Wii. C'est un jeu en noir et blanc dans lequel on se déplace, et la seule chose qui est en couleur de ce que j'ai vu jusqu'à date, c'est le sang qui coule lorsque on attaque des gens. Alors, c'est en vente dès demain.
On peut comparer ça un petit peu au film Sin City, dans le fond. C'est en noir et blanc,
oui,
et dessin animé, mais c'est surtout le sang qui semble être de couleur vive à l'écran.
Oui, j'imagine que ça a été une base là, de peut-être de se fier sur ce film-là à l'époque. Donc, c'est un jeu qui était très attendu, sort demain. Aujourd'hui, au niveau de la Wii, il y avait également une nouvelle collection qui sortait, le fameux New Play Control. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est Nintendo qui a décidé de ressortir des anciens titres de la GameCube, mais de les mettre à la façon Wii, donc de les retravailler pour qu'on puisse jouer avec les contrôles de la Wii, donc la Wiimote et le Nunchuck. Et aujourd'hui, on parle de Mario Power Tennis et de Pikmin, qui sont sur les tablettes en vente. C'est des jeux de GameCube. Et pour la fin de la semaine, Resident Evil 5 sort le vendredi 13 mars. Alors, puis ceux qui ont une Wii et qui disent « Bon, j'ai pas la chance d'avoir ce jeu-là, Resident Evil », ben, dites-vous que cette semaine, ce jeudi, on devrait annoncer une suite à The Umbrella Chronicles ou un jeu de Resident Evil qui devrait ressembler à The Umbrella Chronicles, qui était sorti il y a quelque temps de cela. Vous connaissez le Professor Layton, qui est un jeu sur la DS, un jeu de puzzle, de casse-tête, d'enquête. Eh bien, paraît-il qu'il y aurait une production de cinéma d'animation qui serait présentement en cours au Japon pour faire un film, et ça devrait sortir en janvier 2010, donc dans un an environ. Il y a déjà trois jeux qui sont disponibles sur la DS, mais malheureusement seulement un est disponible en Amérique, ici au Québec également. Et on dit que le film sera basé sur l'environnement des jeux, mais il sera pas en lien direct avec l'une des trois histoires qui sont déjà disponibles. Présentement, il y a aucune information qui nous dit si le film sera disponible au Canada, aux États-Unis, au Québec, en traduction, mais si on compte la popularité du jeu ici, il y a des bonnes chances que ça traverse l'océan Pacifique et qu'on ait des nouvelles de ce film-là dans la prochaine année, en 2010. Ghostbusters, le jeu, ça fait longtemps qu'on en entend parler.
Oui.
Beaucoup de problèmes avec ce jeu-là. Bon, il y a eu des compagnies qui ont changé, les éditions et tout ça. Eh bien, Sigourney Weaver, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, la fameuse Dana Barrett du film Ghostbusters, ne fera pas partie de la distribution. La petite histoire, c'est celle-là. C'est que les gens de Terminal Reality, qui s'occupent de faire le jeu, avaient déjà approché Dan Aykroyd et Harold Ramis, qui sont deux acteurs du film Ghostbusters. Dan Aykroyd, qui est le Canadien, acteur canadien qu'on connaît, et Harold Ramis, qui avait lui écrit le scénario du premier Ghostbusters. Ils avaient approché ces gens-là pour justement écrire le scénario du jeu, et ils avaient accepté. À ce moment-là, on n'avait pas vraiment de nouvelles des autres acteurs. On a contacté Ernie Hudson, qui était un des acteurs également, et Bill Murray, qui jouait Peter Venkman, ne donnait pas de nouvelles, et Sigourney Weaver a refusé de faire partie de la distribution de ce jeu-là. Le jour où Peter Venkman, donc Bill Murray, a dit « Moi, je suis intéressé à faire ça, j'ai d'autres projets, mais là, maintenant, je suis intéressé, j'ai du temps », Sigourney Weaver a rappelé la compagnie, a dit « Ben moi aussi, je suis intéressé, si Bill Murray est là », sauf qu'on avait déjà engagé quelqu'un d'autre pour faire un autre personnage, pas le personnage de Dana Barrett, mais un autre personnage, et on a dû dire à Madame Weaver « Ben, trop tard, Madame, vous avez passé go, et il n'y a pas de chance de revenir ».
Est-ce qu'on va voir la dame qui jouait la secrétaire avec la petite voix aiguë?
J'ai pas de nouvelles à ce niveau-là. J'ai pas de nouvelles non plus au niveau de Rick Moranis. Ça serait quand même intéressant de les voir, mais à date, là, c'est vraiment ceux qui faisaient partie de la distribution, qui étaient en fin de compte les Ghostbusters eux-mêmes, qui sont de retour. Et on a annoncé également cette semaine le rock band Beatles. On en avait déjà entendu parler, alors que Guitar Hero travaille sur un spécial Metallica, un futur Guitar Hero 5, même un DJ Hero. dont j'ai entendu parler, bien, les gens de MTV Harmonix et Apple Corporation ont annoncé que les Beatles seront sur un prochain jeu de la série Rock Band. Aucun titre de chanson n'a été dévoilé encore pour savoir ce qu'il y aura sur le jeu, mais on sait que la sortie est prévue pour le 9/09, donc le 9 septembre prochain. On devrait avoir des nouvelles du jeu pour la série Rock Band. Et ça fait le tour des actualités. Le temps de passer à l'agenda, si je retrouve mes feuilles. Et oui, l'agenda de la semaine, ben, on vous invite à venir avec nous à l'Abraham Martin dans quelques instants, à compter de 19h, l'Abraham Martin, pour une soirée de jeu qui a lieu, en fin de compte, à tous les lundis. C'est l'Abraham Martin, un restaurant qui est situé tout près de dans le complexe Méduse où on diffuse ici à Québec. Et en fin de compte, on devra terminer puisque l'émission se termine. On passera à l'agenda la prochaine fois pour le reste de l'agenda. Et prendre le temps tout simplement de saluer et de remercier les gens qui ont participé à cette émission aujourd'hui. On remercie Denis Talbot de Musique Plus, Monsieur Net qui a été ici en entrevue. On remercie Chantal Campagna également pour nous avoir parlé des fameux jeux, les jeux de plateau. Également, on remercie Mathieu Place qui a dû nous quitter et Guillaume Forin. Merci également pour
la chronique. Vincent.
Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, 17h. Dans quelques instants, c'est l'émission Homologue sur les ondes de CKIA. Et je vous souhaite une bonne semaine.
Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school.
No, we're not.
I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end.
Whoa. You got a girlfriend?
Yeah. Yeah. No.
It's D&D! Warriors who terrify. It's D&D! Virgins till the day we...